tennis avec un digicode à l'entrée et un digicode aussi au niveau du paddle. Le principe, c'est que le digicode, enfin le principe proposé sur lequel on discute, c'est que le digicode à l'entrée du paddle serait éphémère, c'est-à-dire quelqu'un réserve avec une carte bleue, il a un digicode éphémère qui dure une heure et demie, c'est-à-dire le temps de son créneau, ça permet de voir quels sont les encaissements, ça permet aussi d'avoir une gestion sans gestion de personnel finalement, puisque vous réservez théoriquement sur Internet, vous avez un code qui est reçu par SMS, vous rentrez votre code et pendant une heure et demie vous avez accès au terrain. Au bout d'une heure et demie, le code s'efface, vous sortez, vous ne pouvez plus rentrer sur le terrain. C'est celui qui a réservé après qui a à nouveau un digicode pour rentrer sur le terrain. Pour les adhérents du tennis, qui a été proposé, la solution technique qui est proposée, c'est de mettre un badge à disposition des gens qui sont licenciés et à jour de leur cotisation pour le tennis. Lorsque l'année est terminée, par exemple au début septembre, ceux qui ont réglé leur cotisation, le badge s'active. Ceux qui ne l'ont pas réglé, le badge n'est pas activé. Donc ça, c'est une solution technique qui a été proposée. On verra si elle est retenue d'une part par la mairie et d'une part par les membres du tennis. Sachant que je pense qu'il faut être assez rigoureux sur le fonctionnement, sinon s'il n'y a pas un système d'entrée et de sortie et surtout un système de comptabilité au niveau des recettes encaissées, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et je pense que c'est la solution, à mon avis, qui est la plus simple, non, à discuter avec les membres de la commission, la mairie et puis les gens du tennis. Voilà. Après, s'il y a des questions... Alors l'éclairage, pareil, les devis ont été faits, il y a eu plusieurs devis, Alain en avait fait, on en a refait deux la semaine dernière, qu'on a reçu récemment. Alors après, là, ce que je pense aussi, pour avoir bien discuté avec les gens qui sont venus faire les travaux, c'est qu'il y a bien évidemment le coût, l'éclairage, mais il y a surtout la qualité. Il faut 400 lux sur les terrains de tennis. C'est quand même une somme importante qui avoisine globalement les 50 000 euros de TTC, quoi. Donc, il faut regarder bien évidemment le coût et les dépenses engagées par la commune, mais il faut se méfier aussi de la prestation qui est réalisée par les prestataires. En l'occurrence, sur les deux devis qu'on a reçus, il y a un devis où la personne a fait une étude très ciblée par rapport au contexte et par rapport à la quantité de lumière sur les terrains de tennis. L'autre a fait un devis beaucoup plus rapide où je pense qu'il n'y a pas une étude sérieuse vraiment qui a été faite et que les spots sont mis de manière aléatoire avec un risque, c'est que si ça ne fonctionne pas bien, il faut mettre un rajout derrière pour avoir les 400 lux en bas. Donc je pense, quelle que soit l'entreprise qui va être choisie, il faut vraiment s'assurer que ce qu'ils proposent, on ait vraiment 400 lux et qu'il n'y ait pas un éblouissement à des endroits et que l'éclairage soit relativement homogène, parce que sinon c'est complètement injouable pour les pratiquants. Voilà, merci.
J'ai une question sur est-ce que dans les études là, sur l'éclairage.
Oui.
Tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
dans l'éclairage, là, est-ce qu'il y a une estimation des économies d'énergie qu'on va faire sur le passage au LED ?
Ça peut se calculer parce que donc, en passage au LED, il faut regarder le coût au kilowattheure. Forcément, il y a une économie d'énergie. Après, combien elle sera, il faut voir aussi par rapport au temps de pratique. Il faut aussi voir la minuterie aujourd'hui. Je crois qu'elle s'active à 17h, si je ne me trompe pas. C'est 17h. Avant 17h, il n'y a pas de possibilité de mettre de l'éclairage. Et elle se coupe toutes les heures. Donc, après, forcément, il y a une économie d'énergie. De combien, il suffit de voir combien elle a dépensé de kilowattheure l'année dernière. En fonction du nombre de kilowattheures, même si, comme le disait Bernard, je crois qu'on a pris 20% d'augmentation sur l'électricité cette année, parce que je crois qu'on est de mémoire hein, à 0,19 le kilowattheure, je crois que c'est ce qui se vend à peu près aujourd'hui par EDF en tout cas. Donc on peut avoir la quantité de kilowattheures consommée sur la facture, multipliée par 0,19, et voir combien on a d'économie d'énergie. Ça se calcule, à mon avis, sans aucun problème. Après, sur les équipements municipaux, puisqu'on en parle, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a dû y réfléchir un peu, c'est vrai que le panneau solaire, c'est quelque chose qu'il faut envisager, parce que j'ai regardé quelques études, c'est quelque chose qui s'amortit sur 7-8 ans, et qui permet quand même de couper les factures entre 35 et 40% par rapport à lorsqu'on cherche n'importe quel fournisseur. Donc ça, c'est à étudier aussi.
Voilà. Alors après, après, pour finir, on a prévu effectivement du mobilier urbain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des bancs, de la signalétique, etc. Et puis, on va mettre un budget aussi sur les travaux, sur les bâtiments publics. Parce que bon, les bâtiments, il faut les entretenir, hein, sinon, donc des réseaux essentiellement. Voilà. Voilà, et bien, écoutez, on est arrivé à la fin. On va passer au vélo. C'est qui tient le problème?
Oui, donc je vous ai distribué une feuille qui est l'analyse effectivement du budget 2021 de la commune que nous faisons. C'est plus facile de le suivre puisqu'on a des chiffres sur une feuille, donc c'est pour ça que je vous ai distribué ça, ce document. Donc on a fait une analyse concernant le budget de la commune, donc on l'a divisé comme Bernard l'a déjà travaillé, un budget de fonctionnement et un budget d'investissement. À la fois sur la composante des dépenses et recettes. Donc ce qu'on peut dire, et ce qui vous a déjà été confirmé par Bernard, c'est que les dépenses ont augmenté de 5,9% par rapport à 2019, les dépenses de fonctionnement, et plus de 2,6% si on ne tient pas compte de l'amende SRU. Donc on est sur des augmentations de dépenses de fonctionnement qui subsistent quand même, malgré tout. Alors en ce qui concerne les charges générales, ces charges générales sont contenues. Néanmoins, on a quand même quelques observations à faire relativement au budget. Notamment, on a des postes qui sont en forte diminution. Donc c'est fête et cérémonie, comme ça a été souligné. C'est les transports, c'est la plage de neige qui a été supprimée. Donc tout ça, ça réalise des économies dues à la crise sanitaire. On a aussi une facturation d'électricité qui a été incomplète, hein, puisqu'il manque une partie de la facture. On a par contre des dépenses qui sont en augmentation importante, donc des formes de dépenses de l'envers notamment. Il nous a été dit en commission finance que c'était conjoncturel et qu'on espère que ces dépenses vont être contenues dans les années qui suivent. Donc il y avait 11 contentieux et des épurations de dossiers en cours à faire. On a une interrogation quand même sur laquelle il faudra sans doute se pencher, alors à la fois sans doute en commission finance spécifiquement, c'est sur le coût de la restauration scolaire. On a une dépense 2021 qui est assez importante, notamment quand on la compare par rapport à la dépense de 2019. On a plus de 66% d'augmentation quand on fait la comparaison entre les deux. On a changé de prestataire là, donc on aura encore des coûts différents. L'idée principale qu'on a derrière ce questionnement-là, c'est que c'est un poste à surveiller. Et surtout, nous, on interroge sur le mode de calcul de la participation des familles. Parce qu'il faudra sans doute, là aussi, peut-être regarder ça d'un peu près et de voir, globalement, on l'a déjà évoqué sur d'autres points de vue, hein, sur ce qu'on appelle les produits de service et notamment le paiement des prestations qui sont offertes par la commune. Mais je pense qu'autour de la restauration scolaire, il y aura sans doute quelque chose d'assez complet à faire et à regarder. Toujours dans les charges générales, on a quand même trois lignes qui nous ont interpellés de façon assez forte. On a eu des explications en commission finance, mais malgré tout, je vous les donne ici. Les fournitures d'entretien, hein, on avait 13 000 euros en 2018, on a 31 000 euros en 2021, ça représente 138% d'augmentation. Les fournitures scolaires, là c'est pareil, on a une forte augmentation, donc 15 000 euros en 2018, 24 000 euros en 2021, ça représente 60% d'augmentation, donc il y a un aspect démographique, mais il y a aussi un aspect, je suppose, augmentation de la dotation voulue. Et puis on a une ligne de maintenance qui est de 17 000 euros en 2018 et qui est passée à 34 000 euros en 2021, donc plus 100%. C'est un point aussi qu'on a soulevé en commission finance. Et donc il y a effectivement des réflexions aussi pour nous à conduire sur ce dossier maintenant, c'est notamment pour pouvoir faire des économies et d'autant plus qu'on va avoir d'autres équipements et d'autres opérations de maintenance qui vont arriver. Je pense qu'il y a une vraie interrogation à avoir sur des contrats collectifs, des choses mutualisées qui devraient permettre de réaliser quelques économies sur ce plan-là. Sur le poste qui concerne les charges de personnel, donc on souligne effectivement que l'augmentation a été contenue en 2021 avec plus de 5%, une fois qu'on a fait la déduction des remboursements pour absence de personnel. Mais on voulait ressouligner ici, et de façon assez forte, que les décisions qui ont été prises à la fin du mandat précédent impactent déjà aujourd'hui les finances de la commune et impacteront fortement les finances de la commune dans les années à venir. Ces décisions, elles portent sur quoi ? Elles portent essentiellement sur un rééquilibrage de l'emploi avec la titularisation de nombreux personnels vacataires. Donc si ce point est une très bonne chose pour les agents qui sont titularisés, cette situation, ça encadre fortement les décisions que la commune pourra prendre. Si elle a besoin ou si elle a la volonté de mieux maîtriser sa masse salariale. Donc je vous ai posé un petit tableau. En 2017, on avait 680 000 euros sur le poste de l'emploi titulaire, 203 000 euros sur le poste vacataire. En 2021, on avait 913 000 euros sur l'emploi des titulaires et seulement 93 000 euros sur l'emploi des vacataires. À quelques analyses près, on a donc 34% d'augmentation sur le poste titulaire, moins 54% sur le poste des vacataires, et pour une enveloppe globale qui est en augmentation de 14%. Quand on embauche quelqu'un sur la commune en titularisation, c'est effectivement une embauche qui se fait pour plusieurs dizaines d'années. Donc je pense que ces éléments-là, on devra les prendre en compte et ça impactera ce mandat, mais certainement d'autres qui vont venir derrière. En ce qui concerne les charges de gestion courante, on a une augmentation significative des charges de plus de 11% cette année, après une augmentation qui était aussi de 9,5% en 2020. Bon, on ne va pas revenir sur le fait et le pourquoi de cette augmentation sur cette charge de gestion courante. C'est essentiellement dû aux décisions qui ont été prises en début de mandat concernant la réévaluation des indemnités des élus. Hein. Elles existent et on en voit la pleine réalisation cette année. Les subventions aux associations, c'est un poste qui nous a semblé important aussi à souligner dans ces charges de gestion courante, puisque ça fait partie des lignes qui sont posées dans ce chapitre. Si on fait abstraction de la subvention qui est apportée à la crèche des Talins, qui a une fonctionnalité et un objectif complètement différent des subventions aux associations culturelles et sportives de la commune, les subventions aux associations sont passées de 32 000 euros en 2017 à 25 500 euros en 2021, ce qui représente une baisse de 20% sur 5 ans. Aujourd'hui, les subventions aux associations ne représentent plus que 0,75% des dépenses de fonctionnement de la commune. Il va y avoir une réflexion importante qui va être apportée sur la redéfinition et la rediscussion avec toutes les associations de la commune. Je pense qu'il faudra tenir compte aussi de cette information quand vous serez amené à rediscuter des soutiens que vous pouvez apporter aux associations de la commune, qui sont très nombreuses et qui font un travail, je pense que tout le monde reconnaît de façon forte. En ce qui concerne les accumulations de produits, comme ça a été souligné, c'est la première année où la commune est assujettie au prélèvement au titre de la loi SRU, pour un montant de 104 000 euros. On est tous conscients que, vu l'évolution de l'habitat et la transformation de l'habitat de Montferrier en ce moment, notamment avec une division parcellaire, et même si on arrive à réaliser quelques programmes de logements sociaux, cette dépense ne pourra qu'augmenter dans les années futures. Donc il faudra aussi en tenir compte sans doute sur le pluriannuel. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, celles-ci sont à 7,7% hors excédent de fonctionnement reporté et atténuation des charges, hein, puisque ça c'est des choses qui masquent un peu les évolutions. Je pense qu'on peut dire que l'augmentation des recettes, c'est quand même la conséquence directe de l'augmentation du taux de foncier bâti, donc de 2 points et pas de 2%. 2 points sur le taux, ça représente 4,75% d'augmentation. Je pense que c'est important d'être clair quand on donne les chiffres. Et aussi la modification donc, du taux de la taxe sur l'électricité qui passe de 8 à 8,5%. De 4% à 8,5%. Cette augmentation aura une conséquence importante cette année puisque le prix de l'électricité a augmenté. Cette taxe va être sans doute supérieure aux 120 000 euros qui sont aujourd'hui estimés dans le cadre du... La seule chose qu'on peut espérer, c'est que cette taxe ne soit pas plafonnée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des discussions de façon à limiter l'impact de l'augmentation de coûts de l'énergie sur les ménages. Et il est possible que cette taxe soit plafonnée dans les mois qui viennent, mais on n'est pas dans la tête du prochain gouvernement qui sera aux manettes après l'élection présidentielle. Comme ça a été souligné, et c'est inhérent depuis de très nombreuses années, on a une structure des recettes qui est très fortement tributaire des impôts et taxes, 82%, et des dotations de participation, 6%. Ce qui fait que quelles sont les marges de manœuvre au milieu des augmentations d'impôts? La seule marge de manœuvre qui existe, c'est celle sur les produits de services, comme ça a été souligné. Bon, ceux-ci ont été très fortement impactés par la crise sanitaire, moins 15% en 2021, moins 30% en 2020. C'est conjoncturel. On peut espérer qu'on va revenir à des chiffres antérieurs à ceux de 2018. Et il y a peut-être aussi, Bernard, tu nous avais dit qu'il y avait certaines recettes qui n'avaient pas été comptabilisées dans le budget qui nous était présenté en 2021. Mais malgré tout, il nous semble extrêmement important qu'une réflexion soit engagée. On l'a déjà souligné à plusieurs reprises quand on a voté les participations des parents à un certain nombre d'activités, qu'une réflexion soit rapidement engagée pour renforcer les parts des produits de services sur la commune, donc de voir dans quelle mesure on peut rééquilibrer aussi. L'impôt n'est pas le seul levier qu'on peut maîtriser au niveau des recettes d'une commune, et je pense qu'il faut interroger la totalité des leviers possibles, même si les sommes sont parfois plus faibles qu'un point d'augmentation du taux de foncier bâti. Je pense que ça mérite quand même d'être regardé. Et puis c'est aussi plus équitable dans l'équilibre entre l'impôt et l'impôt qui est dû par tous et les services qui sont utilisés que par certaines personnes. Donc ce qu'on peut dire sur nos observations sur le budget de fonctionnement 2021, c'est qu'on a un budget 2021 qui est encore, comme ça a été souligné, largement marqué par la crise sanitaire. Donc les résultats sont difficilement généralisables à une année normale. Néanmoins, il nous semble qu'il y a quand même quelques déséquilibres structurels sur lesquels il faudrait qu'on travaille. Donc celui qu'on vient de souligner, des difficultés, des prépondérances des impôts et taxes dans les recettes de la commune. Des difficultés à maîtriser durablement les charges, donc je pense qu'on a aussi un effet démographique sur la commune et qu'il ne faut pas le minimiser. Donc il faudra sans doute aussi qu'on essaye de le prendre en compte dans les budgets des années futures. Des charges personnelles, on a déjà évoqué les contraintes qu'on va avoir sur ce chapitre-là, avec une structure d'emploi qui est très peu flexible, et des produits de services qui sont aujourd'hui largement insuffisants. Ce qu'on peut dire, alors quelques éléments de prêt dans les sommes, puisque effectivement on n'a pas exactement les mêmes, mais enfin c'est pas très grave. La seule chose que vous voulez dire quand même, c'est que l'augmentation des recettes de fonctionnement a été largement amputée par l'augmentation des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix qui a été fait en 2021 d'augmenter les impôts, avec une volonté que ce soit une dépense, une augmentation qui soit pluriannuelle et qui soit. Qu'on puisse se permettre de limiter les augmentations dans les années futures. Aujourd'hui, quand on regarde le budget 2021, on s'aperçoit que l'épargne nette n'augmente pas autant qu'il aurait pu être espéré, relativement au fait qu'on avait augmenté quand même de 2 points, soit 4,5%, les impôts locaux qui représentent eux-mêmes 82% du budget communal. Donc, ça traduit bien quand même qu'on a un ciseau, toujours, ça fait plusieurs années qu'on le dit et qu'on le répète, on a un ciseau entre des dépenses qui sont contraintes, et cette année, en 2022, on a parlé des fluides, mais on aura aussi sans doute des augmentations sur tous les autres postes de charges de la commune, puisque l'inflation ne fait qu'augmenter, et qu'en conséquence, il y aura aussi une répercussion à terme sur les salaires, ça paraît évident pour tout le monde. Et donc ce double élément se traduira à un moment ou à un autre par des choix à faire, alors relativement aux dépenses, mais aussi relativement aux recettes. En ce qui concerne le budget d'investissement, comme ça a été souligné, le budget d'investissement 2021 a été assez atone cette année, c'est pour la seconde année consécutive, donc il y a différentes raisons pour ça. Bernard nous les a expliqués, mais malgré tout, on a des dépenses d'investissement qui sont très 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 faibles cette année. Et on a un excédent d'investissement qui pour moi est un petit peu en trompe-l'œil, donc je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'on a un excédent d'investissement en 2020 de 245 000 euros, mais on avait une dotation au FCTVA de 239 000 euros. Donc ça veut dire que le FCTVA il est distribué 2 années en retard. On reçoit les recettes décalées. Donc si on ne fait pas d'investissement une année, l'impact aura lieu sur les recettes des deux années qui suivent. De 2021, pareil, on avait 303 000 euros d'excédent d'investissement et on a 280 000 euros de FCTVA et TLC. Donc ce qui fait qu'en 2022, la recette de FCTVA sera conjoncturellement en diminution. Donc même si on réalise des travaux en 2022, on ne touchera le FCTVA relativement à ces travaux qu'en 2024. Donc il faudra en tenir compte aussi sur l'établissement du budget 2022. Et notre interrogation globale par rapport à tout ça, c'est qu'on réinterroge fortement effectivement l'aspect pluriannuel du budget qui prend toute sa place puisqu'on a un mandat pour des raisons évidentes sur lesquelles les premières années sont assez faibles en investissement. On va se retrouver avec 2 années sans doute assez fortes en investissement, voire 3 années. Et avec des moyens de lisser tout ça sur le pluriannuel et sur le mandat. Donc on réitère notre demande de discussion et de participation à l'établissement de ce projet d'investissement pluriannuel. C'est-à-dire, ce à quoi on aspire, ce n'est pas seulement une présentation, Bernard. J'admets tout à fait que tu travailles de façon extrêmement importante, sans doute avec d'autres personnes du conseil municipal. Et que les présentations qui nous sont faites en commission finance sont intéressantes, elles sont éclairantes sur un certain nombre de points. Seulement, moi je suis désolé, depuis 2 ans que je suis dans cette nouvelle formation au niveau du conseil municipal, je n'ai jamais eu de discussion de travail autour de ces éléments-là. Et sur ce dossier-là, comme sur beaucoup d'autres, je pense que c'est ce qui nous manque. Et peut-être qu'en partageant ensemble, on arrivera sans doute un peu plus facilement à comprendre les choix qui sont réalisés et en tout cas peut-être à offrir d'autres possibilités ou d'autres choix possibles auxquels vous ne pensez peut-être pas forcément. Voilà, merci beaucoup.
Je vais quand même te répondre quand même. Hein. Moi je suis tout à fait disposé à travailler avec toi, il n'y a aucun problème. Hein. Donc d'ailleurs, on en parlait avec Céline, je vais assez rapidement convoquer une commission finance. Et bon, écoute, on parlera du provisionnel, on parlera de tout ça, il n'y a pas de problème. Juste sur les quelques remarques que tu as faites sur la restauration scolaire, il faut savoir que la restauration scolaire, si tu veux, est compensée par des recettes. Donc, elle augmente, les recettes augmentent de la même façon, et en général, on a même un différentiel positif. Bon, sur les honoraires, tu as raison, il s'est avéré que quand Mme Brigitte de Vincennes a été élue, on avait 11 contentieux au niveau urbanisme. Il en reste un, et il est certain qu'ils ont été traités ces 2 dernières années, et que donc on a eu des honoraires d'avocats relativement importants, en sachant quand même que le groupe AMEN nous en rembourse une partie. Donc l'année prochaine, il est bien certain qu'on ne sera plus du tout dans ce cas de figure, et que c'est un poste qui va fortement, fortement diminuer. Sur les fournitures scolaires, c'est un montant par élève qui est donné. Là, je ne sais plus combien, c'est 50 euros.
50 euros.
50 euros par élève, il y a tant d'élèves, 50 euros. Hein. Alors j'avais toujours été surpris les années précédentes qu'on n'atteignait pas le montant. Et là, cette année, par contre, il a été pratiquement dépassé. Pour l'année prochaine, je crois que ça représente à peu près 20 000 euros. Hein, voilà. Donc ça, c'est sûr.
Et sur ce point, je peux peut-être ajouter une précision aussi. On s'est rendu compte que les façons de fonctionner entre l'élémentaire et la maternelle n'étaient pas les mêmes, que des règles spécifiques existaient pour la maternelle qui n'étaient pas applicables à l'élémentaire. Et nous souhaitons remettre à plat tout ça pour qu'il y ait une équité entre les deux écoles, parce qu'il n'y a pas de raison que la maternelle puisse utiliser des crédits non consommés des années précédentes et que ce ne soit pas le cas, par exemple, à l'élémentaire.
Ok. Sur la taxe,
pour compléter ce qui vient d'être dit, mes remarques sur la dotation des écoles n'est pas pour la diminuer,
mais pour
fournir une explication aux citoyens face à un certain nombre d'augmentations d'un certain nombre de postes.
Moi, je me suis interrogé quand Bernard a préparé son budget et m'a annoncé les chiffres. J'étais le premier à m'interroger, à me demander d'où pouvait provenir cette augmentation. l'habitation. Donc c'est vrai qu'on a mis notre nez dedans et que l'idée c'est de repartir sur des bases égalitaires entre les deux écoles. Et d'ailleurs nous avons même commencé puisque nous avons mis la dotation par élève au même montant, que ce soit à l'élémentaire et à la maternelle, puisqu'il y avait une disparité aussi. Donc voilà, le but c'est pas forcément de réduire la dépense, mais en tout cas qu'il y ait une égalité entre les deux écoles.
Sur les produits d'entretien, il y a une augmentation de 138% entre 18 et 21. Dedans, il faut compter les deux années de Covid avec l'augmentation de consommation de tous les produits. Les serviettes pour se nettoyer les mains, le gel hydroalcoolique, les savons parce que c'était 5-6 fois par jour que les enfants allaient se laver, les produits pour nettoyer le sol plusieurs fois dans la journée. Donc il est logique qu'entre 18 et 21, on prend dedans deux années Covid. Hein. Donc les fournitures d'entretien, elles ont été fortement augmentées par la crise sanitaire. Ça, c'est évident.
Oui, tout à fait, ça semble une explication tout à fait fondée. Malgré tout, je pense que quand même, il y a peut-être des choses à regarder sur ce projet.
On a commencé justement, on a cette augmentation due à la crise Covid, bon ça on n'y peut rien. Par contre, on a commencé à réfléchir sur les produits d'entretien. Et aujourd'hui, nous avons demandé à Jean-Michel Bussmann de gérer les commandes. On fera deux commandes dans l'année, une fois tous les 6 mois, avec un stock, une gestion de stock, tout ce qui n'était pas fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'au niveau des produits d'entretien, on va avoir une somme qui va être relativement fixe sur les années à venir. Parce qu'il y a toute une gestion de stock qui se met en place.
On a fini.
Après pardon, hein, enfin, moi je ne suis pas à la commission des finances, mais quand on regarde le budget, il y a 24 euros par habitant. Je crois qu'on doit être la seule commune. On doit être la seule commune du département de l'Hérault et même de France à avoir un endettement comme ça. 24 euros par habitant. Pour info, je regardais en même temps qu'on discutait. Clapier, c'est 752 euros par habitant. Donc 24, 752. Saint-Dreséry, qui est une commune à peu près équivalente, c'est 538 euros. Et Saint-Clément, c'est 4300 euros avec 22 millions de dettes.
Il y a autre chose. Non,
après, ok. Mais je pense que ce que disait Bernard, à mon avis, est très important. On peut compter les virgules, et bien sûr qu'il faut gérer au plus près. Je pense qu'on peut faire confiance à Bernard dans ce domaine. Mais je pense que faire un emprunt rapidement, tant que les taux sont bas et ils sont en train de remonter, c'est capital pour une bonne gestion de la commune. Parce qu'aujourd'hui, il reste 94 000 euros, je crois, de capital restant dû, d'après ce que j'ai pu comprendre. 94 427 en capital restant dû.
Mais ça plonge très rapidement, parce que dans deux ans.
Oui, on amortit 30 000 euros, je crois, par an. Donc, autant dire qu'il n'y a rien. Et il est, à mon avis, important de faire un emprunt. Alors après, à discuter pourquoi faire.
Là-dessus, je crois que.
Bien évidemment, collectivement, pourquoi faire. Il faut y aller, là, parce que.
Je voulais juste dire aussi une chose.
Sur l'emprunt, c'est une discussion qu'on a eue, y compris lors du mandat
précédent.
Et là-dessus, je rejoins tout à fait.
Je ne dis pas qu'il faut 22 millions comme Saint-Clément, mais entre Clapier, 4 millions et Saint-Denis, 4 millions. Si on a 94 euros, on est en compétition.
En 8 ans, c'est la première fois que j'entends, à part nous, un conseiller municipal qui dit ce qu'il a.
Enfin, moi, c'est
comme quoi, on évolue. On évolue, on se rend compte.
Donc, vous venez un peu.
Non, on ouvre les yeux, tout simplement.
Pour moi, c'est la bonne gestion, parce que là. Il y a un décalage tellement important que si on n'y va pas, c'est presque après de la mauvaise gestion, entre guillemets.
Non, puis ça permet aussi de glisser, donc dans le cadre du travail sur le pluriannuel, effectivement, c'est des composantes qu'on peut prendre et qui sont importantes. Ce problème de l'emprunt, c'est un des leviers qu'on peut aussi mettre en œuvre pour pouvoir faire le programme d'investissement qui est prévu sur le mandat. Il n'y a pas de problème.
On va passer là. D'ajouter sur le côté emprunt, parce que l'emprunt effectivement est très important, et donc c'est de l'investissement, et il faudra le faire de sorte que ça puisse diminuer durablement les dépenses de fonctionnement, hein, puisqu'on voit bien qu'au niveau de notre capacité, de notre épargne, il peut y avoir potentiellement un souci entre les recettes et les dépenses de fonctionnement, et donc cet emprunt sera capital si on peut effectivement venir à toucher un petit peu à ces dépenses de fonctionnement.
Je vais essayer de ne pas faire de redondance avec l'administration qui avait été faite à l'instant par Jean.
l'évolution du budget de la commune est peu différente de ce qu'on avait eu sur l'année précédente. Ce qui nous paraît important, et qui a déjà été dit, mais c'est la maîtrise du coût, des coûts, et notamment par le passage à de la pluriannualité dans la gestion des projets. C'est-à-dire une présentation, Bernard l'avait dit en début de séance que ce n'était pas présenté aujourd'hui, mais pour nous c'est important de pouvoir travailler en commission et de travailler sur cette pluriannualité.
Et puis par fonction surtout. Ça sera beaucoup plus lisible, à mon avis. Hein. Voilà.
La maîtrise des coûts de personnel, hein, ça a largement été évoqué, je ne vais pas revenir là-dessus, notamment l'attention que j'ai été et aux titularisations éventuelles des agents contractuels actuellement embauchés par la commune. Et puis cet aspect sur la cantine, hein, c'est vrai qu'en commission, on a surtout travaillé au changement de prestataire et à avoir une offre meilleure pour nos enfants. Maintenant, c'est vrai que ces éléments financiers, on les a regardés de plus loin. C'est peut-être quelque chose qu'il faudra, à cheval entre les deux commissions financières et les commissions scolaires, regarder pour maîtriser ces coûts.
On pourra en reparler, mais juste pour te répondre quand même sur ce point, aujourd'hui, avec les modélisations que nous avons, avec la nouvelle tarification et le coût actuel du traiteur, on sera positif. La commune en retirera un bénéfice. Mais ça n'empêche pas effectivement d'avoir une réflexion au cours du mandat sur, et je pense que ça c'est un point sur lequel nous allons aller, créer peut-être, je vous l'avais déjà dit, une tranche supplémentaire, nous ne l'avons pas fait la dernière fois, mais c'est peut-être quelque chose sur lequel nous allons nous orienter pour des raisons de justice sociale bien évidemment, et également parce que c'est dans le sens de l'histoire que de faire cette distinction un peu plus fine, en tout cas au niveau de la tarification scolaire.
Et bien, nous en sommes ravis, puisque c'est ce que nous demandons depuis le début du mandat, qu'on puisse en arriver à une meilleure répartition.
Oui, juste pour compléter, quand tu dis que tu seras en solde positif, c'est relatif à la prestation de repas qui sont offerts et non à la totalité des sommes engagées pour la restauration scolaire.
On est complètement d'accord.
Et je pense qu'il faut aussi intégrer tout ça et pas faire croire qu'en fin de compte, on peut faire du bénéfice sur la restauration scolaire.
Non, je pense qu'une fois
qu'on aura la comptabilité analytique, on sera assez surpris des chiffres que cela contient.
Alors, je ne pense pas qu'on sera surpris, alors pour une raison très simple, et en tout cas sur l'exercice 2022, on va le voir très rapidement, hein, c'est que janvier et février, on a déjà eu beaucoup d'absents au niveau de la cantine à cause du Covid, et qu'en cas de justificatif médical présenté, on ne facture pas la cantine aux parents, bien que les repas aient été commandés. Donc il faut s'attendre forcément sur l'exercice 2022 à avoir sur ces mois de janvier et de février un impact significatif sur les recettes versus les dépenses.
Mais c'est plutôt la prise en charge du complet, non ?
Oui, mais après, la prise en compte, bien sûr, des bâtiments, du personnel et tout ça, ça j'en ai bien conscience, bien sûr. Non, là, je parlais vraiment prestations traiteurs et ce que nous encaissons. Ça ne tient pas compte, effectivement, du personnel ni du coût des bâtiments.
Oui, c'est le cas pour tous les produits de service. On a déjà évoqué ça à plusieurs reprises. Je pense que le point qui va suivre, on va l'évoquer aussi de la même façon. C'est qu'effectivement, il faut raisonner, et la comptabilité analytique nous le permettra, de raisonner en coût complet et de voir quel est le taux de participation des familles à ce coût complet, qui restera toujours bien inférieur à 100%, on est bien d'accord. Mais quelque part, c'est important que le point de repère, ce soit le coût complet et pas le coût juste marginal de l'alimentation.
On est d'accord.
Et nous aurons donc encore en 2022 l'impact de la crise sanitaire.
Oui.
Donc pour continuer, nous souscrivons également au recours à l'emprunt, hein, vu la capacité d'emprunt de la commune qui est de plus en plus importante. Donc là, je pense qu'on est tous en convergence sur ces éléments-là. Sur les perspectives 2022, on a quelques petites inquiétudes. Sur évidemment le décompte des charges supplémentaires par rapport à 2021, même si certaines explications ont été données, sur éventuellement l'augmentation de la masse salariale avec ce recrutement, sachant que le départ de l'agent en place et puis le nouveau recrutement remplaçant et puis le recrutement de l'assistant au niveau de la police municipale. Autre élément à prendre en compte, c'est bien évidemment l'amende infligée aux communes pour les obligations à l'égard de la loi SRU. Et donc on paye aussi là lourdement, mais ça on mérite d'un passif qu'il va falloir aussi de travailler, on mérite du manque de construction de logements sociaux dans notre commune. Et ce décalage, on va le payer, puisque évidemment il y a entre le moment où on décide de construire des logements sociaux et puis le moment où ils sont construits. Voilà. Après j'avais quelques remarques sur les remarques de fond, tout a été un peu couvert, c'était surtout des remarques de forme. Entre la différence de la des éléments qui étaient dans la présentation et peut-être de manière marginale, mais quand même il y a des chiffres qui sont un petit peu différents entre le document sur les orientations pour le 2022 qui nous a été présenté et sur la présentation là. Je peux peut-être les lister là, l'Europe et la présentation.
Pourtant c'est les mêmes chiffres que j'ai pris. Je pourrais les lister, en citer
quelques-uns. Alors sur la partie personnelle communale, on nous indique dans le document qu'on emploie 44 agents, sur la présentation on est à 36.
On a sorti les contractuels. On a compté que les titulaires.
Sur le service enfant jeunesse, c'est les gens qui restent très peu de temps, on les enlève.
Ok, mais peut-être de préciser tout dans le document, parce que au niveau de l'ANS, ça fait un petit changement. Les subventions aux associations ne sont pas indiquées, alors qu'elles étaient présentées dans la présentation, mais ce serait peut-être intéressant de le rajouter dans...
Parce qu'on m'a demandé de simplifier la présentation.
C'est parce que c'est moi qui demandais de simplifier, parce que comme vous aviez eu l'Europe, je me suis dit que ça ne sert à rien de répéter la même chose qu'il y a dans l'Europe.
Non, mais parfois, c'est pour ça que je suis utile.
Parce que Céline, j'étais partie sur 70 diapositives, et on a atteint, je crois, 50.
Et certains éléments sont importants à indiquer, et surtout sur la section investissement. Il y a beaucoup de différences entre les principales dépenses de 2021 qui ont été présentées ici et celles que nous avons dans le document. Par exemple, sur le bâtiment scolaire, on annonce 104 279 € dans le rouge et 130 000 € sur la présentation. Les autres bâtiments, on est à 19 000 € dans le rouge et 22 000 sur la présentation. L'animation du village n'apparaît pas dans la présentation et elle est dans le rouge. Le matériel informatique, on est à un delta de 2 000 € entre les deux. Le matériel d'hiver n'apparaît pas, les transports de 7 950 € apparaissent.
J'ai dit les principales, donc j'ai regroupé un petit peu, c'est pour ça. Mais c'est des sommes, ça n'a pas bougé.
Il y a quand même des deltas de 30 000 euros, donc peut-être réharmoniser les deux éléments pour que ça puisse correspondre. Et enfin, sur les projets d'investissement pour 2022, on a noté... que le terrain de padel est terminé dans l'Europe, donc je ne sais pas si c'est un projet d'investissement.
Parce qu'elle était faite avant. Voilà.
Reste quelques aménagements.
Entre le Rob et le DOB, il s'est terminé.
Mais peut-être
du coup. Le réceptionné aujourd'hui.
Voilà, le mot précisé dans le document, parce que ça fait.
Et les aménagements, c'est ce dont a parlé Christian, ce sont les portillons,
c'est pas prévu,
les badges, etc. Voilà.
Mais peut-être pour plus de clarté, le remodifier dans le monde.
Je voulais rebondir sur.
Alors, le problème, c'est que l'OPROD, il doit précéder le DOP. Donc, il n'est pas fait en même temps. Donc, le rapport, il est fait à un moment et le DOP, il est présenté plus tard. Et donc, on continue à travailler. Moi, je travaille constamment sur les chiffres. Et donc, évidemment, des fois, j'ai des éléments supplémentaires qui arrivent et donc j'en tiens compte.
Alors, j'avais juste une question de compréhension sur les caméras. On avait annoncé en 2021, c'était pris dans le budget 2021. Donc là, il y a eu zéro dépense, si je comprends bien, en 2021. Ouais. Et tout est reporté sur 2022.
Donc, c'est des restes à réaliser.
Okay. Ouais.
Vous avez parlé du poste de la secrétaire qui allait augmenter la masse salariale, mais
non,
on ne change pas.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit,
je ne suis pas exprimée.
dit qu'il allait avoir un delta entre le départ de l'agent actuellement en poste et le recrutement de la nouvelle personne, qui ne sera probablement pas non plus recruté au même niveau. Et par ailleurs, il y avait un nouveau recrutement avec un assistant.
Un ASP.
Merci.
Bah écoutez, je vous remercie de ce débat qui était intéressant. Donc, nous prenons acte ce soir que nous avons eu un débat d'orientation budgétaire dans la commune de Montfermeil. Merci. Et on va passer à la deuxième partie de l'ordre du jour. Donc, le tarif de la classe verte pour les enfants de Montfermeil. Donc, on va passer la parole à M. Chrétien.
Alors, je ne sais plus si nous en avons déjà parlé, mais il me semble aussi, lors du dernier conseil municipal, la classe de neige n'a pas eu lieu. Cette classe de neige n'a pas eu lieu puisque les enseignants ne se sont pas sentis de partir en période de Covid avec les enfants, bien que cela ait été autorisé. Nous avons dû négocier avec le prestataire actuel pour l'annulation de cette classe de neige au regard du délai qui est imparti. Et les enseignants ont souhaité partir en classe verte à la place, qui se déroulera au mois de mai. Cette classe verte, je n'ai pas forcément retenu le lieu où...
Espalion,
voilà. Doit avoir lieu à Espalion et il y aura une activité, enfin des activités en tout cas beaucoup plus culturelles que sportives qui étaient prévues à la montagne. Le coût pour la commune va être moindre que la classe de neige. Et du coup, on a simplement, pour vous expliquer les tarifs qui ont été retenus, on a fait un pourrata par rapport au coût pour la commune et ce qu'on demandait pour la classe de neige et ce qu'on veut demander pour la classe verte aux familles. On est resté, et j'anticipe déjà les critiques constructives, bien évidemment, les remarques de Jean-Marie, Michel, Céline et Jean-Paul. Il n'y a pas eu de réflexion effectivement sur la création éventuellement de tranches supérieures. C'est un travail que nous souhaitons mettre en place et qu'on va faire au sein de la commission scolaire. Donc là, on est resté sur les tranches qui prévalaient pour la classe de neige. Donc, nous vous demandons de bien vouloir voter les tarifs qui sont mentionnés dans...
Ça fait 8 ans qu'on le demande. 8 ans qu'on est dessus, et tu nous dis qu'on va le faire encore, et voilà. Bon, la dernière fois, vous deviez le faire pour celui-là, mais vous ne l'avez pas fait, on en a parlé quand même.
Donc, je sais, je sais.
C'est une question de justice sociale, c'est ce que tu disais aussi sur un autre sujet, quoi. Une question de justice sociale, c'est pas normal que quelqu'un qui paye pas d'impôts paye autant que quelqu'un qui est dans une tranche supérieure d'impôts. C'est pas normal, c'est pas juste.
Il paye pas autant.
Mais c'est pas le sujet là.
Il ne paye pas autant. Il ne paye pas autant. Ne paye pas autant. Celui qui ne paye pas d'impôts ne paye pas autant que celui qui paye beaucoup d'impôts. Déjà, c'est sûr.
On a quand même deux tarifs.
Je vais prendre le temps un petit peu de. Puisque, effectivement, c'est forcé qu'on réagisse à ça, puisque c'est déjà pas la première fois sur ce mandat, et nous l'avons déjà fait à multiples reprises sur le mandat précédent. Juste quand même quelques observations qui sont sans doute liées aussi par Céline, un peu plus loin, mais qu'est-ce que représente un coefficient familial de 7000 euros? Je réitère les chiffres que j'ai dit lors du dernier conseil. Un coefficient familial de 7000 euros pour une famille avec deux enfants et trois parts, c'est 21 000 euros par an. C'est 1750 euros par mois. D'accord ? Donc ça veut dire que les gens qui sont au-dessus de 1750 euros par mois, une famille de salaire global, hein, sur le foyer,
bien sûr,
avec deux enfants, va payer le tarif maximum. Au même titre qu'une famille qui a des revenus largement supérieurs. Donc ce 7000 euros, c'est un seuil qui n'est pas bon. Et il n'est pas bon pour différentes raisons. Je peux déjà vous donner simplement les tranches d'imposition 2022. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, on est non imposable jusqu'à un coefficient familial de 10 225 euros. Donc déjà rien que la première honnêteté aurait été de positionner la limite non pas à 7007, mais au moins à 10 225. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont non imposables,
et qui payent comme des gens qui sont tellement imposables, c'est-à-dire qui sont dans la tranche 2, la tranche supérieure. La deuxième tranche au niveau d'imposition, elle est à 26 070 de coef familial, et la troisième tranche, auquel de nombreux Montferriens accèdent, elle est à 74 545 €. Voilà, donc c'est juste pour donner des chiffres et pour relativiser ce que veut dire ce seuil de 7 700 €. Deuxièmement, sur les coûts qui sont proposés, c'est effectivement au prorata de ce qui a été fait lors de la classe de neige, mais vu qu'on n'est déjà pas d'accord sur la classe de neige, on va vous réitérer, le coût total de cette classe verte est de 566 € pour gamin. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en dessous de 7 000 € paye 24,7% de cette somme, et quelqu'un qui est supérieur à 7 000 € paye 35%. Donc vous avez aujourd'hui des gens qui ont des revenus tout à fait confortables sur la commune, qui ne paye que 35% de la charge que la commune a assurée pour cette classe verte. Je pense qu'au-delà de la justice sociale, je pense qu'il est largement temps de réfléchir à tout ça et de remettre tout ça à plat. Et il nous faudra un discours d'explication extrêmement clair vis-à-vis des familles qui ne comprendra pas, qui ne comprendront peut-être pas toutes, pourquoi on a cette augmentation. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une augmentation qui va impacter certaines personnes, mais il faut savoir que la somme qui n'est pas couverte par les familles qui payent pour ce service est couverte par l'impôt, c'est-à-dire par l'ensemble des citoyens de Montferrier. Elle n'est pas économisée, il n'y a pas deux caisses différentes en disant les gens ne payent pas là, et puis après, on verra bien la suite. Voilà. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on voulait souligner. On l'a déjà souligné à plusieurs reprises, ça fait bientôt 2 ans. On a ce nouveau mandat, on l'a déjà souligné dans les mandats précédents, voilà, donc je pense qu'on est assez, je dirais, quand on a, même si on parle gentiment, on est assez remonté sur cet élément-là.
Jusqu'à présent, on s'est étonné, mais là, c'est trop.
Et ça ne concerne pas que ce service-là, je pense que cette réflexion a engagé tous les services qu'on fait sur la commune, à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire c'est vers l'école, mais c'est aussi tous les autres services qu'on a. Il faut remettre à plat toutes ces modes de calcul qui datent de Mathusalem. Enfin, je veux dire, à bien avant d'être élu, j'observais déjà le conseil municipal, j'étais dans la salle en tant que personne qui observait, et déjà on avait les mêmes bases et les mêmes propositions. Donc ça fait plus de 30 ans que ça existe. À un moment donné, il faut savoir pouvoir donner un coup de balai et reprendre tout ça à la lumière de tout ce qu'on a vu précédemment sur le budget.
Bien sûr. Je vais juste me permettre d'apporter une précision quand même, qui je pense est importante. Aujourd'hui, dans les familles aux écoles, nous avons 70% des familles qui sont dans les tranches vraiment très supérieures, les plus supérieures en tout cas, 20% dans la tranche intermédiaire et 10% dans les tranches les plus basses. Voilà, ça c'est un peu des éléments de contexte. Là où je suis aussi, je vais peut-être aller un peu contre ce que tu dis, Jean-Marie, c'est que tu me demandes d'augmenter les recettes sur les services, mais les modélisations que nous faisons en créant des tranches supplémentaires de paiement pour les citoyens font baisser les recettes de la commune dans ce cas-là. Donc on est... moi, j'ai pas de problème, mais on se retrouve donc à aller à l'encontre de ce que tu souhaites faire.
Steve, là, si tu crées une tranche supérieure, tu augmentes tes recettes, tu les diminues pas assez. Après, si on prend, sans réinventer la roue, ce qui est prévu sur les tranches d'imposition pour le QF, tu as des tranches qui sont déjà préétablies. Il n'y a rien à refaire que les gens connaissent, qui sont capables d'appliquer et qui représentent quelque chose pour eux et qui permettent d'avoir un petit peu plus d'équité et de justice sociale.
Je vais me permettre de vous donner l'exemple de la commune de Prades, que j'ai regardé quelle était leur façon de fonctionner. Il y a 9, sur la restauration scolaire par exemple, il y a 9 tranches, enfin dans tous les services même, il y a 9 tranches différentes en fonction des revenus du coefficient familial. Si à Montferrier on appliquait ça, on perd de l'argent par rapport à ce qu'aujourd'hui. Mais enfin, ça je peux vous le montrer, il n'y a pas de difficulté.
C'est pas
que je l'expliquerai pas. Forcément.
Je pense que la chose que tu as dit, les 10%. 60% les moins argentés. Les plus argentés, c'est combien?
70%.
Si cette tranche-là, qui va vivre encore à 300 euros, la tranche intermédiaire qui va vivre à 150 euros, la tranche la plus basse qui va vivre à 0 euros, va augmenter de recettes.
Oui, là, dans ce cas, on est d'accord.
Et franchement,
je te parle de créer beaucoup plus.
Demander 300 euros pour des gens, la tranche la plus haute, franchement, c'est rien. Tandis que demander 140 euros à des gens qui touchent 1500, voire moins, c'est beaucoup. Voilà pourquoi nous voterons contre également, et nous sommes tout à fait d'accord avec vos remarques. Nous l'avons demandé, redemandé, nous, ça fait que 2 ans. Mais j'espère que nous arriverons. Mais toi-même, tu le dis.
Oui, bien sûr. Je te le dis, et après, je t'explique aussi pourquoi, sur une décision que nous devons prendre rapidement et qui ne nous permet pas d'avoir la réflexion avant de voter ces tarifs, nous agissons de la sorte. Nous avons reproduit ce que nous avons fait pour la classe des neiges. Voilà, les tarifs de la classe de neige ont été votés au mois de novembre, me semble-t-il, novembre ou décembre, sur le conseil, de décembre ou novembre, je ne sais plus. Là, on est en février, c'est juste une adaptation. Et je vous assure qu'on va retravailler ça et qu'on va essayer d'aller vers plus de justice sociale.
Merci.
Donc on va voter 5 contre, je suppose, 5 contre, oui c'est ça, 5 contre, et adopter par la majorité. Je vous remercie pour l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses.
Oui. Une première question. Sur le site WhatsApp, mon cher les pauvres, certaines autorités. Nombre de personnes se sont plaintes de dégradation de voitures et de vol par une belvédère en février 2022. On avait besoin de vous parler, je pense que oui, si oui, quelles mesures avez-vous prises, sinon, quelles mesures comptez-vous prendre? Merci.
Monsieur Laure, qu'est-ce que c'est le WhatsApp, je ne sais pas quoi, Power?
C'est un site sur lequel se trouvent beaucoup de gens dans le village et dans la commune d'ailleurs. Je pense que, je ne sais pas, monsieur Bourrilly,
Et c'est un WhatsApp qui existe depuis combien de temps?
Ça existe il y a plus de 2 ans.
Au moins 2 ans. Ouais, ouais,
il a été créé aux nouvelles élections à la campagne.
À l'initiative d'une personne. D'accord. Et ça s'est généralisé. C'est bien d'intervenir à la campagne. Et ça n'a rien à voir. Aucune base politique. Il n'y a rien.
Ça n'a rien à voir.
Non, c'est juste une question.
Ça a été créé en 2008.
C'est un lieu d'échange de services. D'ailleurs, si jamais on intervient politiquement, on se fait danser. Hein. Donc, oui. Ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Hein.
D'accord, donc c'est un WhatsApp d'échange, de ce qui se passe dans la commune, d'information.
De dons, par exemple, si vous voulez donner un canapé, vous pouvez donner.
Ah, d'accord, le troc.
Le troc.
Mais c'est plus que
ça. D'argent. Okay. Il n'y a pas d'argent, il y a un autre WhatsApp prévu pour achat et vente à partir d'argent, quand c'est vendu. Ça, c'est autre chose. Mais là, c'est de l'information que j'ai vue d'ailleurs. Beaucoup se sont plaints à un moment donné, et ça a duré assez longtemps d'ailleurs, de dégradation de voitures.
Alors j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler évidemment parce que les dégradations ayant eu lieu sur le parking du Belvédère à côté de la mairie, donc bien sûr j'en ai entendu parler. J'ai des personnes, des administrés qui sont même venus me voir. Donc d'où l'intérêt des caméras que nous allons mettre en place. Alors on a aujourd'hui des caméras sur le Belvédère, sur le parking du Belvédère qui ne fonctionne plus. Donc ces caméras vont nous aider à éviter ces dégradations, sachant que ces dégradations, je vais vous en citer deux. La première, c'était le vol de jantes avec les protections de roue, les enjoliveurs. Et la deuxième dégradation qui a été très importante, c'est un monsieur qui, le matin, a vu qu'on lui avait sectionné son pot catalytique. Ah oui. Donc on l'a coupé et on l'a volé pour certainement le moment.
Ça doit se vendre très cher.
Donc c'est des choses, c'est vrai, qui ne sont jamais arrivées dans la commune. On va changer les caméras. J'ai demandé à Golia et Julie de passer plus, mais malheureusement, les dégradations se font la nuit. Hein.
Plus de siphonnage des camions de chantier aussi.
Siphonnage de camions de chantier, bon, ça, j'en ai pas, ça ne s'est pas revenu, mais bon, voilà, siphonnage de
camions.
Voilà.
C'est revenu aux agents municipaux qui sont au courant, d'ailleurs.
Bon, donc, voilà, d'où l'intérêt de mettre aussi des caméras sur la commune pour pouvoir arriver à voir qui fait ça. Alors, la gendarmerie est au courant, bien sûr, parce que je les vois une fois par mois, donc je les tiens au courant de tous ces méfaits. Il faut passer les gendarmes la nuit un petit peu plus souvent. Donc là, c'est vrai qu'en décembre, ils sont passés plus souvent que d'habitude. Mais...
Et parce qu'en plus, c'est un lieu qui est dans le village, mais isolé, parce qu'il y a de l'immobilier, il y a des cliniques, donc ils ne sont pas là la nuit. Non. Donc il y a peu de gens qui habitent sur ces façades. Donc ça pose aussi question, parce que... En fait, ils sont libres, quoi.
Non, c'est-à-dire que les parkings sont en dehors des habitations, c'est surtout ça le problème. Les parkings sont en dehors des habitations, automatiquement. Mais bon, on va essayer d'y remédier avec les caméras.
Voilà. Deuxième question sur le football, sur les terrains de football. Est-ce que M. Delafosse a donné son accord sur l'emprise de la métropole à Valérie pour faire ces terrains? Comment le ton de ce projet? Si c'est le cas, quel va être le financement du projet et quelle sera la part communale? Est-ce qu'il y a un projet d'urbanisme pour les terrains actuels et y aura-t-il information et consultation des riverains de ces anciens terrains de football? Après, on a une question plutôt de sécurité, hein, pour faire le lien avec la question précédente, sur le déplacement de ces terrains de foot et leur accès qui sera rendu difficile, notamment pour les enfants, avec toute la commune à traverser, pas de transport en commun et les problèmes de sécurité afférents. Donc voilà un peu toutes ces questions.
Alors, le déplacement du terrain de football, monsieur Delafosse les a actés plutôt le déplacement. Ensuite, la prise en charge, le coût de la prise en charge par la commune, aujourd'hui, nous n'en savons rien, parce que la métropole est en train de travailler sur un ensemble de terrains qu'ils ont à Bayerville sur lesquels ils pourront mettre la caserne de pompiers, les terrains de football et Maître Vallée, puisque Monsieur Delafosse veut positionner du Maître Vallée, donc des laboratoires de recherche propres, hein, donc style Cyrad, etc., ou des entreprises, ou des start-up. Donc aujourd'hui, on n'a pas plus avancé que ça sur le coût et qui va payer les terrains de football. Donc ça, c'est déjà sûr. Après, sur l'aménagement urbanistique des terrains qui vont être libérés, mais bien entendu qu'il y aura une réflexion qui sera faite et ça sera discuté en commission d'urbanisme et tout le monde pourra apporter ses idées sur l'aménagement de cette zone, qui sera un aménagement global et qui ne pourra être initié, je pense, que en 2000, à mon avis, pas avant 2025. Hein. Je pense, ça sera initié pour la prochaine mandature, hein, enfin je pense. Nous, on va acter aujourd'hui en avance sur le déplacement des terrains. Une fois que les terrains seront déplacés, on va commencer à réfléchir, hein, bien sûr, sur l'urbanisation, mais on ne le mettra en place qu'à la fin du mandat. On commencera à peine à mettre ça en place à la fin du mandat. Et ensuite, la sécurité. Mais la sécurité, déjà, elle sera meilleure qu'aujourd'hui, puisqu'on a le pont sur le Lez qui va être fait. On va avoir la piste cyclable. Donc, tout ça va faciliter quand même l'accès aux futurs terrains de foot qui sont à Bayerville, puisque à Bayerville, vous avez aussi une piste cyclable qui
Combien de terrains, combien de terrains de foot à Bayerville?
Ce qu'on a aujourd'hui.
Excusez-moi, je croyais qu'il y avait eu des études qui avaient été faites sous la précédente mandature pour qu'ils restent en centre-ville.
Non. Il y a des études qui ont été faites, mais sur des terrains...
géomètres.
Il y a des terrains qui aujourd'hui ne sont plus constructibles puisque ce sont des terres agricoles. Donc c'est pas possible de les mettre sur des terres agricoles.
Et là, la métropole est très, très, très ferme là-dessus. Il n'y aura aucune terre agricole qui sera prise pour mettre quoi que ce soit, des terrains de foot ou des habitations. Il n'y a plus de prise de terre agricole, c'est terminé. Donc le dossier qui avait été réfléchi à l'époque par l'ancienne mandature, c'était un transfert des terrains sur les terres agricoles. Donc c'est terminé, il n'y a plus d'actualité.
Juste pour rebondir sur Medvallée, est-ce que lors d'un prochain conseil municipal, on pourra avoir un point d'information justement sur...
Faut-il que j'ai aussi des informations. La problématique, c'est que Medvallée, pour l'instant, ça reste assez nébuleux, et donc nous, en conseil de métropole, nous n'arrivons jamais à savoir ce qu'il en est exactement de Medvallée. Alors on entend des choses, il y a des bruits de couloir, il y a des vice-présidents qui vous disent des choses, puis c'est contredit, mais donc on n'a rien d'écrit, de clair. Pour l'instant, on n'a rien d'écrit et de clair. Donc je ne vais pas faire d'annonce.
Comme vous le savez, bon, au lotissement des Asphodèles, là, au-dessus du stade, des problèmes majeurs, puisque les gens se sont bien beaucoup, c'est le bruit. Et effectivement, les terrains de foot, ils sont retrouvés à Valérie-Anquet, vont impacter au niveau du bruit également, beaucoup des gens qui sont faits libres, c'est-à-dire qu'on déplace le bruit des Asphodèles. Je pense qu'il faudra quand même travailler fortement sur cet impact lié au bruit, qui est quand même très très fort, puisque pour tous les gens qui sont autour, hein, c'est vraiment l'infernal. C'est pas dû aux gens qui jouent au foot, et c'est comme ça. Hein. Ça siffle, ça dit des mots. Un chanteur, c'est vrai que c'est un souci. Et je pense qu'il faudra travailler fortement sur ce point. Je pense qu'on peut le faire aujourd'hui. Hein. Et je pense que c'est un élément très, très, très important à travailler. Et je pense financièrement, parce qu'on peut faire aujourd'hui des murs en bruit, etc.
On connaît la surface foncière que possède la métropole là-bas, ou pas du tout?
Aujourd'hui,